Vous êtes sur RTL.
9h. RTL Matin, Agnès Bonfillon, Stéphane Carpentier.
Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Dans un instant, toute l'actualité bien sûr et les toutes dernières informations concernant le coronavirus chinois. On va commencer ce journal, Agnès, par une bonne nouvelle.
Ah oui, c'est plutôt plaisant de savoir que l'on peut gagner à un jeu sans en connaître les règles. Figurez-vous que Sylvie, une habitante de Seine-et-Marne, a gagné donc 600 000 euros au loto sportif, alors qu'elle n'y connaît strictement rien au foot à Gatlandais.
Ouais, c'est même carrément le cas. Elle ne connaît rien au foot, elle ne comprend rien à ce sport. Pourtant, son mari, lui, est greffé à sa télé tous les week-ends. Il suit les matchs assidûment pour pouvoir faire ses pronostics. Et résultat, il y a deux semaines, Sylvie l'accompagne au bureau de tabac. Elle veut, elle aussi, faire un pari sportif. Et là, jackpot, elle remporte le joli pactole, vous disiez, de 600 000 euros. Alors, vous vous demandez comment un tel prodige a-t-il été possible? Eh bien, Sylvie a expliqué sa combine à nos confrères du Parisien. C'est tout simple, dit-elle. Je joue l'inverse des pronostics de mon mari. Résultat, elle a prédit les bons scores pour tous les matchs des 11 et 12 janvier dernier. La victoire de Nîmes contre Reims, la défaite de Saint-Etienne face à Nantes et même le match nul surprise 3 partout entre le PSG et Monaco. Alors, morale de l'histoire, ce n'est pas parce que vous ne comprenez rien au 4-4-2 ou que vous confondez le coup franc et le corner que vous ne pouvez pas parier. D'autant que dans le cas de Sylvie, c'est quand même la deuxième fois qu'elle remporte la mise. Il y a quelques années, elle avait déjà touché 40 000 euros avec la même combine.
Bah merci Sylvie et merci Agathe Londé pour cette histoire qui donne de l'espoir. Je me parle à moi-même Stéphane.
Évidemment, le reste de l'actualité, ce sont les mesures qui se multiplient en Chine pour tenter d'enrayer l'épidémie du coronavirus.
Oui, le dernier bilan fait état de 56 morts, on le rappelle, plus de 2000 personnes contaminées. À Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, les habitants sont totalement confinés. À Shanghai, un premier mort a été recensé. À Hong Kong, mais aussi Pékin, de nombreux centres commerciaux ou parcs d'attractions ferment leurs portes au fur et à mesure, par mesure de précaution, sans parler des écoles. Chez nous, en France, toujours 3 personnes soignées pour cette pneumonie aiguë. Leur état de santé n'inspire plus aucune inquiétude ce matin. 2 sont à Paris, 1 à Bordeaux, dans des chambres bien spécifiques. Les autorités sanitaires le savent, hein, ces prochains jours, forcément, des patients vont appeler pour savoir si leur toux, leur fièvre peut être un symptôme du coronavirus. Alors, halte à la psychose. Virginie Garin, expliquez-nous en quoi nous n'avons aucune raison de céder à la panique.
Eh bien parce que, visiblement, le système de détection fonctionne, les gens se signalent, ils sont pris en charge. Le message est sans cesse répété, il faut rester chez soi, ne pas aller à l'hôpital, appeler le 15. Un test permet de détecter le virus très rapidement, les malades sont isolés, donc toutes ces mesures, selon les spécialistes du virus, devraient permettre de contenir la maladie en Europe. Ensuite, le taux de mortalité reste plus faible que lors des autres épidémies de coronavirus. 95% au moins des personnes atteintes guérissent. Lors du SRAS en 2002, le taux de décès était de 15% et même de 50% chez les plus de 65 ans. À l'époque, à la même période, en hiver, une trentaine de pays avaient été touchés. Près de 800 personnes étaient mortes. Alors en 2002, la Chine avait été accusée d'avoir minimisé l'épidémie. Le premier cas avait été gardé secret pendant près d'un mois. Là, au contraire, elle a réagi très vite. La réponse est même spectaculaire. Et pour le SRAS, quand enfin des mesures radicales avaient été prises, comme en ce moment, restrictions de circulation, port du masque et des infections, le virus avait fini par perdre du terrain et disparaître l'été suivant.
Les précisions de Virginie Garin pour RTL.
On entend bien, Agnès, qu'en France, il n'y a pas de raison de paniquer, surtout quand on pense aux habitants de Wuhan, en Chine, qui, eux, sont complètement confinés.
Oui, et dans cette ville, en plein centre du pays, il y a une forte communauté française, 4 à 500 personnes environ. Vous avez pu en joindre quelques-unes de ces personnes pour RTL, Nicolas Burnand. Elles aussi sont coupées de tout.
Depuis 4 jours, Jackie et sa femme sont confinés dans leur maison au sud de Wuhan. Cet expatrié est directeur d'un sous-traitant automobile français implanté en Chine. Il applique méticuleusement les consignes des autorités.
Se laver les mains régulièrement. Si on mange de la viande, on la fait vraiment cuire à fond. Obligation de porter un masque pour sortir dans la rue. les magasins ne sont pas réalimentés, comme il n'y a plus de transport, il n'y a plus de logistique. Donc voilà, ça va commencer à poser des problèmes pour les personnes qui n'ont pas de réserve en fait.
Dans les rues désertes, la circulation des véhicules est interdite avec des barrages routiers tenus par des policiers, les gares fermées. Simon habite à 50 km de Wuhan, il n'est pas prêt à évacuer.
Si c'est pour se retrouver pendant une journée ou deux jours entiers en transit, avec des gens partout autour, en quarantaine quelque part dans un hôpital, je ne sais pas où, c'est pas forcément non plus une bonne idée, quoi. Je préfère autant rester ici. Plus on est loin des gens, mieux c'est. Il n'y a pratiquement pas de gens extérieurs qui viennent ici. Moi, j'ai l'impression que ma situation est plutôt safe par rapport à ceux qui habitent en ville.
Cet expatrié préférait plutôt rentrer provisoirement à Paris, loin de l'épidémie. Le centre de crise du Quai d'Orsay a mis en place un dispositif de suivi pour assister les Français sur place.
Nicolas Burnan avec des Français expatriés à Wuhan. Donc, le coronavirus, les mesures prises pour contrer une éventuelle épidémie chez nous, il en sera question à midi, puisqu'Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, sera l'invitée du grand jury RTL Le Figaro LCI. Le sujet des municipales sera aussi forcément abordé. Et justement, Cédric Villani, sachez-le, candidat dissident de La République En Marche à Paris, doit être reçu par Emmanuel Macron aujourd'hui ou demain. Cette semaine, le député affirmait sur notre antenne qu'il ne comptait en aucun cas se retirer au profit de Benjamin Griveaux, qui lui a l'investiture officielle du parti. La ville de Montpellier veut porter plainte contre Nicole Belloubet. La garde des Sceaux a préféré choisir Toulouse pour implanter une nouvelle cour administrative d'appel. La mairie héraultaise l'accuse de prise illégale d'intérêt et de favoritisme. Et puis c'est une information RTL. Vendredi matin, très tôt, un obus a été découvert sur les voies ferrées à 2 km de la gare de Lille-Flandre. L'objet datant de la Deuxième Guerre mondiale a été déposé volontairement. Alors même si c'est une pièce de musée, qu'elle ne représentait aucun risque, une équipe de déminage a dû intervenir et une enquête a été ouverte.
Et puis Agnès, on peut ranger beaucoup de choses dans la vie, mais l'électricité n'en fait pas partie.
Eh oui, l'électricité est éphémère, qu'elle soit produite par des centrales nucléaires, thermiques, solaires. Les kilowattheures doivent être consommés immédiatement au risque d'être perdus, ce qui représente un vrai casse-tête pour en permanence jongler entre l'offre et la demande. C'est donc une petite révolution que lance le gestionnaire du réseau, RTE. À partir de l'année prochaine, un projet test aura lieu dans 3 villes pour tenter de stocker l'énergie dans des méga-batteries, Éric Vanier.
Il faudra effectivement bientôt s'habituer à voir ces piles géantes, plus ou moins camouflées derrière des palissades ou de la verdure. C'est Olivier Grabette qui pilote le projet pour RTE.
Ça prend un peu de place, donc c'est en plein air. En gros, hein, ça ressemble aux containers classiques qu'on voit sur des camions ou sur des bateaux, où à l'intérieur, on va embarquer certes les batteries, mais aussi tout un ensemble de composants électroniques, des containers qu'on va empiler sur un terrain qui jouxte les postes RTE pour les raccorder au réseau.
Ce sont les mégawatts les moins maîtrisables, ceux produits par des éoliennes ou des panneaux solaires soumis aux aléas du vent et du soleil, qui seront ainsi mis en conserve. Chaque site d'expérimentation permettra de stocker l'équivalent de la consommation d'électricité de 10 000 foyers pendant 2 à 3 heures. 80 millions d'investissements pour commencer et de grands espoirs pour la suite.
Les développements futurs vont dépendre de l'évolution du coût des batteries. Avec un coût raisonnable, on aura un développement à grande échelle. Nous travaillons avec 3 consortiums français. C'est vraiment le cœur du savoir-faire français pour servir de vitrine pour l'industrie française.
Éric Vanier pour RTL. RTL bouge pour la planète justement à partir de ce dimanche. Et pendant une semaine, les antennes du groupe M6 se mobilisent et proposent plus de 60 heures de programmes en lien avec l'écologie et l'environnement. Évidemment, à l'occasion de cette semaine Green, RTL passe au vert.
Et renforce sa mobilisation, vous avez tous les détails évidemment sur notre site rtl.fr. Dans un instant, les Britanniques ne pourront pas se présenter aux prochaines municipales en France. Depuis 92, ils en avaient la possibilité, mais avec le Brexit, c'est fini.
RTL Matin.
RTL Matin, 9h10, suite du journal. Agnès Bonfillon, Stéphane Carpentier.
Agnès, officiellement, le Brexit, c'est dans 5 jours et dans certaines mairies françaises, Brexit rime avec exit.
Tout court, oui. Depuis 1992, les ressortissants européens avaient le droit de participer aux municipales. À partir de vendredi, pour les Britanniques, qui étaient jusqu'ici 757 à occuper ces fonctions, eh bien, c'est terminé. Au grand désespoir parfois, hein, comme cet Anglais installé en Normandie dans un village de 125 habitants, Frédéric Veil.
À Guergesal, monsieur le maire ne se représentera pas en mars prochain, car comme le dit Didier Goré...
Au bout de trois mandats, je trouve que c'est bien de laisser la place.
Mais voilà, dans ce village, l'un de ses conseillers municipaux, lui, aurait bien voulu se représenter, mais cela, c'est impossible.
Oui, et ça c'est bien dommage, parce que monsieur Green aurait pu continuer, mais malheureusement, il ne pourra pas du fait du Brexit.
Et oui, vous l'aurez compris, Tim Green est anglais. Depuis le traité de Maastricht, il pouvait, en tant que ressortissant britannique, se présenter aux élections municipales. Mais le Brexit va remettre en cause cette possibilité.
C'est fini, oui. Après 18 ans de mandat, c'est un peu dommage quand même, parce que c'est une petite commune, il y a une très bonne ambiance, et j'étais bien impliqué dans le conseil d'administration. C'est moi qui coupe la pelouse, c'est moi qui s'occupe un peu de l'église, donc c'est un bon moment, bien sûr.
Tim Green, qui habite le village depuis 36 ans, ne pourra donc pas siéger au prochain conseil municipal, et comme il le dit en français...
Le Brexit, franchement, c'était une connerie.
Mais il le promet, il restera impliqué dans la vie de la commune.
Le reportage de Frédéric Veil pour RTL. On passe au sport avec la qualification cette nuit de Raonic et Djokovic pour les quarts de finale de l'Open d'Australie. Le Canadien a battu Cilic en 3-7. Quant au Serbe, il n'a fait qu'une bouchée de l'Argentin Schwartzman. On croise les doigts pour que Gaël Monfils suive le même chemin et accède également au quart. Pour cela, il faut qu'il arrive enfin à battre Dominic Thiem.
Oui, c'est sa bête noire. Ce sera la nuit prochaine à Melbourne. En rugby, Agnès, Lyon conforte encore un peu plus sa place de leader du top 14.
Victoire 27-12 hier face à Toulon lors de la 14e journée. À noter également les belles performances de Brive, La Rochelle ou encore Clermont. Et puisque l'on parle de ballon ovale, où en est la cote d'amour des supporters du 15 de France? À 4 ans de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu chez nous, je vous le rappelle, le baromètre Sporodoxa pour RTL et Groupama pose la question, Jean-Michel Rascol. Et franchement, ce n'est pas si mal hein, pour une équipe qui n'a plus gagné de grand chelem depuis 10 ans.
Si la Coupe du Monde n'a pas marqué le palmarès du 15 de France, la victoire sur l'Argentine, le quart de finale abandonné sur le fil aux Gallois ont toutefois boosté sa popularité. 77% des Français affirment avoir une bonne opinion de cette équipe désormais en reconstruction. Le nouveau cap défini par Fabien Galthié semble apprécié. 85% des amateurs de rugby valident les choix opérés par le nouveau sélectionneur qui a fortement rajeuni l'effectif dans la perspective de la Coupe du Monde 2023. Des Français qui désignent même à 33% le 15 de France comme favori du tournoi Destination qui s'avance devant l'Angleterre 30% et les Gallois pourtant tenant du titre. Sur ce point, les amateurs de rugby sont peut-être plus réalistes. Ils placent l'Angleterre favorite à 41% devant la France. Français et Anglais s'affrontent justement dès la première journée dimanche prochain. Un crunch jugé à 50-50. 10 ans sans grand chelem, c'est long comme un match sans essai.
Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL.
Le football, vous connaissez l'adage, un seul être vous manque et tout est dépeuplé.
Eh bien, on peut également dire qu'un seul joueur vous manque et l'équipe n'est pas au taquet. Parlez-en aux Marseillais. Privé de Dimitri Payet, l'OM a dû se contenter d'un nul au Vélodrome hier soir. 0-0 face à Angers. L'absence du maître à jouer s'est fait ressentir et pas qu'un peu. Steve Mandanda le reconnaît volontiers.
Forcément, quand on a un joueur, notamment Dim, qui est capable de nous faire la dernière passe ou de débloquer, on va dire, des situations dans les petits espaces, c'est sûr qu'aujourd'hui, il nous a manqué. Malgré tout, comme je l'ai dit en première mi-temps, on a 2-3 situations où on part dans le dos avec un peu plus de justesse et on aurait pu ouvrir le score. Voilà, c'est comme ça. Mais en même temps, il ne faut pas non plus dramatiser la chose parce qu'on est deuxième, on a 5 points d'avance, on est encore là, quoi.
Steve Mandanda répondait à Hugo Hamelin. Pour RTL, les Marseillais peuvent regarder le verre à moitié plein, eux, après cette 21e journée de Ligue 1. Ce qui n'est pas le cas de Monaco, battu 3-1 par Strasbourg. C'est craquage au Rocher. Les autres résultats, victoire de Saint-Etienne devant Nîmes, 2-1. De Metz à Reims, 1-0. De Brest devant Amiens, 2-1. Et de Montpellier face à Dijon, 2-1. Également, les Montpellierains qui se retrouvent 4e au classement ce matin. Les matchs du jour, Lyon-Toulouse à 15h. Nantes-Bordeaux à 17h et le choc Lille-PSG à 21h à suivre dans Soir de Ligue 1. Vous pouvez me donner vos pronos, Stéphane, du coup, pour que je joue
pour
l'inverse.
Lille, PSG.
Comme Sylvie, que je gagne.
Je sais pas, jouer Lille pour voir.
Ça peut, on ne sait jamais.
Les dogues lillois sont redoutables.
C'est vrai ?
Ouais.
Et Bordeaux à Nantes, peut-être ?
Si vous voulez.
Ah, mettez une pièce et puis on sort.
Si je gagne 600 000 euros, je...
Vous partagez avec moi,
président.
Parce que vous n'avez pas le choix. Tiens, on parlait sport ensemble tout à l'heure. Vous voulez qu'on aille à la salle de sport ensemble parce qu'il faut que je perde des kilos. Hein. On
mais
rappelle tout ça,
ça
à tous ceux qui sont arrivés pour l'info. Je vous précise que Michel Simès et son équipe me soufflent qu'ils vont s'intéresser aux coachs sportifs dans un instant. Et comment les choisir ? On en a bien besoin. On va écouter Michel et son équipe dans un instant.
Vous avez dit
comment ?
Vous avez dit on en a bien besoin.
Oui, on en a bien besoin. Bah, je m'inclus maintenant.
Ah oui, j'avais surtout vous parler moi aussi.
Bah, aussi.
Non, moi je m'inclus aussi. Alors là.
On y va pour la météo, ouais, Valérie, le programme du jour.
Des orages ce matin dans le sud du pays, dans le Gard et dans les Bouches-du-Rhône notamment. Alors dans le Gard, c'est presque terminé. C'est réglé pour Alès ou pour Nîmes notamment. On a encore des pluies à Aigues-Mortes ou encore à Vauvert, mais ça va filer rapidement. Et dans les Bouches-du-Rhône, bah, c'est Istres, Salon de Provence où il y a pas mal de pluies orageuses à l'heure qu'il est. Marseille n'est pas encore touchée, mais ça viendra. Ces pluies vont peu à peu aller vers l'est du pays au fil des heures, en remontant aussi vers les Alpes. Donc il faut s'attendre à pas mal de neige. On a des chutes de neige actuellement dans les Alpes aux alentours de 1200 mètres, mais c'est pas encore grand chose. Ça va tomber un petit peu plus dru cet après-midi. Pour les autres régions, on a aussi des pluies qui circulent entre les Pyrénées et le Poitou, ainsi qu'en région centre. D'ailleurs, on a un petit peu de neige fondue qui se mêle à la pluie dans le Berry notamment. À l'arrière, quelques averses. Bref, il va pas faire beau, faut être clair. Nulle part, il va y avoir un ciel nuageux presque partout avec des chances de soleil un petit peu plus nettes entre le nord et l'Alsace. Les températures cet après-midi, 6 à Strasbourg, 8 à Lille, 9 à Paris, 13 à Nice, 15 à Bastia.
Merci Valérie, le Grand Prix d'Amérique c'est cet après-midi, départ.